dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de
Phoenix.
Qui es-tu, mon frère ?
Ça commence sur les chapeaux de roue, là. Je suis le frère de Christian qui est à côté de moi.
Le grand frère, c'est
moi qui
frère.
Lui ai appris à jouer de la guitare. Et nous sommes une bande d'amis. Depuis le début de notre vie, on se connaît. Et c'est une petite troupe de cirque qui traverse les époques et les continents. Voilà.
Cette troupe s'appelle Phoenix. Dans cette troupe, il y a mon frère, mon grand frère Branco, moi, Christian, Deck.
À la basse.
Et au chant, Thomas.
Dans les oreilles de...
C'est donc la fratrie du Quatuor Versaillais, Christian Mazzalai et Laurent Brankovic, qui nous offrent cette virée dans les oreilles de Phoenix, le groupe français le plus connu à l'international, considéré même par certains comme le meilleur groupe français du monde. Phoenix, apparu en pleine vague French Touch et dont le single If I Ever Feel Better, sorti en 2000, fera danser effectivement le monde entier. 22 ans plus tard, le groupe est de retour avec Alpha Zulu, 7e album, enregistré en plein confinement au Musée des Arts décoratif dans une aile du Palais du Louvre à Paris et qui, bien que l'on entende des airs d'amapiano dans ce nouveau disque, est un clin d'œil non pas à l'Afrique du Sud mais au lexique de l'aéronautique, de l'altitude donc pour les phénix qui nous livrent ce matin les airs qui les animent depuis l'enfance et ceux qui ont accompagné la vie du groupe. Et pour commencer cette émission, eh bien par quelle musique justement souhaiteriez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Nova ?
Moi, je mettrais un des derniers morceaux qu'on a écrit parce que finalement, notre plaisir n'est pas vraiment dans le passé. Notre plaisir est dans le futur. Donc, le dernier morceau, c'est celui qui se rapproche le plus du futur. Et ça sera donc Winter Solstice.
You
les oreilles. Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de...
Phoenix.
Winter Solstice sur Nova, c'est avec cet extrait de leur dernier disque Alpha Zulu que le groupe Phoenix a choisi de se présenter à nous. Avec nous, Christian et Branco remontent le fil musical du Quatuor, direction Versailles, à la découverte des premiers émois musicaux du groupe.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar...
Dans les oreilles, dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de...
Phoenix.
João Gilberto sur Radio Nova avec ce disque paru en 1958 et qui sera le premier grand succès de ce qu'on nomme pour la première fois la bossa nova. C'était Chega di Saudade, morceau d'ouverture du disque que l'on retrouve dans la discothèque familiale de Christian et Branco du groupe Phoenix. Mais quelques années plus tôt, c'est un autre air que l'on entend chez la moitié des Phoenix et c'est leur tout premier souvenir musical.
Le premier souvenir, on est frères, donc on avait le même père.
La même mère, mais c'est notre père qui écoutait la musique surtout.
Et on se souvient très bien du charme qu'opérait sur lui la musique. Il avait un disque de musique de sa région, il est italien, il vient des Alpes italiennes. Et il avait un disque d'un chœur de chants alpins qu'il mettait de temps en temps. Et à chaque fois qu'il le mettait, il se faisait un petit verre de grappa et à chaque fois, il avait les larmes aux yeux. Et donc, nous, le premier souvenir musical, c'est le souvenir de voir notre père qu'on voyait jamais pleurer et qui pleurait. Et donc, ce charme-là, cette puissance, cet ensorcellement, c'est à l'origine de notre amour, je pense, pour la musique.
Et est-ce qu'il y avait beaucoup de musique chez vous, justement ?
Il y avait pas beaucoup, mais c'était, je sais pas, 20 disques. Peut-être, non, à peu près. Hein. 20, 33 tours de nos parents, avant qu'on en achète, hein. Avant les 45 tours. Ils étaient très importants pour nous, on les écoutait beaucoup.
Et c'était quoi ?
Ben donc, il y avait le chœur de la Coro Dolomiti della Sat, il y avait ça. Il y avait de la musique brésilienne, ça c'était, on va dire, il y en avait trois majoritairement très importants pour nous. Il y avait la musique brésilienne, c'était João Gilberto. Non, c'était quoi le disque ?
João Gilberto, ouais. Chega di Saudade. Un très bon disque d'ailleurs. Et il y avait trois albums des Beatles.
Lesquels ? Tutti per uno.
Version italienne de Help.
Hard as Night.
The Hard as Night ?
Tutti per uno.
Ah, c'était Hard as Night, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright.
y avait Abbey Road.
Exact, exact.
Et c'était quoi le troisième que tu avais en tête?
Je sais pas, c'est toi qui as eu des trois disques. C'est pas moi, c'est toi.
Non, c'est toi qui as dit trois disques. Il y avait peu de disques, mais ils étaient quand même de bonne qualité.
Et est-ce que vous vous souvenez de la première que vous soyez appropriée comme ça dans ce bain musical environnant? C'est-à-dire que vous êtes trop jeune pour vous acheter de la musique, mais c'est la première de laquelle vous tombez en amour.
Je me souviens parfaitement. Moi.
Ah, c'était quoi?
C'était la chanson If I Fell des Beatles, qui était donc un morceau, pas un single, enfin pas. C'est le moment où je me suis rendu compte qu'il était possible de trouver dans un disque un morceau qu'on avait l'impression qu'il n'était fait que pour soi, que personne ne connaissait d'autre. Enfin, aucun de mes camarades le connaissait, et ce plaisir, il était fou.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her.
T'as l'équivalent, toi?
Ouais, moi, c'est un poil après, mais quand j'avais 9 ans... C'était quand on écoutait les B-52s. J'avais l'impression que c'était notre groupe, personne n'aimait ce groupe. Nos parents détestaient, c'est un peu le premier groupe alternatif. Aucun enfant ne connaissait à notre âge, à mon âge. C'était un peu les pochettes et tout, ça faisait rêver. Je ne savais même pas d'où ils venaient, on ne connaissait rien. On voyait juste cette pochette là.
Et l'album jaune.
L'album jaune, ouais.
Ça, vous l'avez acheté donc?
Ça, on l'a.
Ça, c'est moi.
Ouais,
ça.
Exact. Avant, ouais, ça, on l'a acheté.
Mais je suis le grand frère, donc j'ai quand même.
Moi, je ne l'avais pas acheté, en effet.
C'est les premiers groupes que j'ai adorés, dont j'ai acheté tous les disques.
Nova, dans les oreilles de.
Phoenix.
Et le tout premier disque que vous avez acheté, c'était quoi?
C'était peut-être un disque de Madonna. Material Girl, je crois. C'est un bon morceau, moi, je trouve. Je le valide. Grosso modo, la musique qu'on écoutait, qu'on aimait quand on était enfant, adolescent, je renie rien, je crois que tout était bien. On avait bon goût, enfant. J'ai peut-être aussi oublié les morceaux qu'il faut oublier. Parfois, il faut oublier les erreurs du passé.
Oui, la mémoire est sélective.
La mémoire est sélective.
Vous, c'était quoi votre premier disque?
Moi, je m'en rappelle la cassette que j'avais eue à Noël. C'était le Thriller de Michael Jackson. Je m'en rappelle. Hein, tu t'en rappelles aussi. C'était magique.
C'est le morceau qu'on. C'est la première cassette, ça. C'est le premier disque, finalement. C'était un cadeau, mais c'était notre premier disque à nous.
Et est-ce que vous êtes allé voir tôt des concerts? Les premières expériences live, c'était où et c'était quoi? Qui plutôt?
Nous, on a grandi à côté de Versailles, donc il n'y avait aucun concert. Enfin, il fallait aller à Paris pour... Et donc, en fait, moi, c'était assez tard, à 15 ans, je crois, mon premier concert. C'était concert à la Cigale des Inrecuptibles. C'était Lush, Blur et Pulp. Et c'est trois groupes le même soir. Et toi, Branco,
c'était moi aussi, c'était assez tard.
C'était pas les Pixies ?
C'était les Pixies, ouais. Je me souviens que c'était la veille du bac français. Quand j'ai passé mon bac, j'avais les oreilles qui sifflaient. Mais ça, je regrette pas mon choix.
Et sur toute la somme, vous êtes beaucoup allé en concert ou pas spécialement ?
Ouais, depuis oui.
Depuis oui.
Et sur toute la somme de concerts que vous avez pu voir, est-ce que vous avez un souvenir marquant de concert ?
J'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est My Bloody Valentine à l'Olympia en je sais pas quelle année, 92, un truc comme ça. C'était l'un de mes premiers concerts donc, et c'était une expérience sans compromis. C'était incroyable. Il y a un moment où sur un morceau qui s'appelle You Made Me Realize, ils font un bruit blanc très très fort. Ça a duré, j'ai l'impression que ça a duré 5 heures, mais je crois que ça a dû durer un quart d'heure. Mais il y a la moitié de la salle qui s'est vidée. Il y a un moment là, artistique complètement fou. Chacun devait prendre position dans le public, quoi. Soit on adhérait, soit on était contre le groupe.
D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, mais en bande avec Phoenix, vous êtes allé en bande voir des concerts
Moi, j'étais à ce concert. Mais beaucoup, les copains de Daft Punk qui étaient là-bas. C'était un concert important dans notre vie à tous. Où il y avait une forme de démence et de folie du groupe, parce qu'il y avait le niveau sonore était. Il n'y avait pas les règles qu'il y a actuellement. Je pense que ça frôlait la folie au niveau sanitaire. C'était n'importe quoi. Et c'était un moment formateur pour toute cette petite génération, cette petite bande d'amis qu'on était.
Nova. Dans les oreilles de
Phoenix.
Et quand est-ce que vous avez commencé la musique ?
Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare à 16 ans. Mes connexions neuronales manquaient de plasticité, et donc j'ai appris très lentement. J'ai très peu progressé. J'ai un niveau toujours assez faible. Je regrette beaucoup de ne pas avoir commencé à 8 ans. Là. Ça aurait été une autre histoire.
Et moi, j'ai commencé à peu près au même âge. Je le regardais jouer de la guitare, il m'apprenait de temps en temps, d'accord.
Mais toi, t'étais un peu plus jeune, donc le cerveau était encore
plus jeune,
souple. Ouais. Il y avait la souplesse.
Vous jouiez quoi ?
On avait le Easy Chord des Beatles. Donc on a beaucoup joué ça, on a appris beaucoup avec ce livre, en gros. Et sinon, on faisait des pauses sur les vidéos, on regardait les doigts de nos artistes, genre Bob Dylan, comment il faisait un Si, par exemple, un Si majeur 7.
En VHS, c'était difficile.
On a appris plein d'accords comme ça, en faisant pause.
Sur les VHS.
Sur les VHS.
Et quelle musique vous associeriez au début de Phoenix ? Et d'ailleurs, à quand vous dateriez vraiment, vous, les débuts de Phoenix ?
Nos débuts, on s'est retrouvés autour d'un projet commun, parce que c'était le groupe de mon petit frère. Moi, j'ai commencé à faire de la musique avec Thomas et Guy Manuel. Avant qu'ils fassent Daft Punk, on avait un petit groupe de garage rock, on peut dire. Ensuite, j'avais un copain qui avait fait un film, un moyen métrage, je crois, amateur. J'ai réussi à le convaincre qu'on pourrait faire la musique. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés ensemble. On a commencé à faire de la musique autour de cette bande-son.
D'accord. Et ça, c'est combien de temps avant Party Time ?
Ça, c'est combien de temps avant Party
Genre
Time?
Genre 3 ans, 3-4 ans.
Party Time, c'est le premier morceau que vous sortez?
Exact. C'est le premier morceau, ouais. On l'a sorti en 45 tours. On a cassé la tirelire et pressé un disque. C'était une bonne décision. Après, on l'a envoyé un peu à droite, à gauche.
On a dû l'envoyer à Radio Nova, je pense.
On l'a envoyé à Radio Nova, c'est sûr.
C'est un morceau, il y a un sample, plusieurs samples, un sample.
La face B, ouais.
La face B,
il y a un peu de sample. Et la face A, c'est une sorte de morceau de punk rock, mais avec des accords un peu jazzy. C'était ça qui nous plaisait.
Donc, qu'est-ce que vous avez dans les oreilles à ce moment-là?
Peut-être un truc de... des Beastie Boys, période Grand Royal, tout ça.
Dans les oreilles de...
Phoenix.
Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à l'époque de nos débuts, on avait l'impression d'être dans un énorme trou au niveau de la musique. On avait l'impression que le monde s'était effondré, un peu comme l'Empire romain s'était effondré. Et il y avait très peu de gens qui nous semblaient maintenir la flamme en dehors de la boue. Et parmi ces gens-là, on pourrait dire Beck. Parce qu'il arrivait à synthétiser... des rythmiques un peu de hip-hop, du sampling, une culture musicale folle, des influences de folk des années 30. Enfin, il y avait quelque chose qui reflétait un peu notre collection de disques. On avait aussi cet appétit.
Ouais, parce que adolescent, je m'en rappelle, il y avait ceux qui écoutaient Cure et ceux qui écoutaient du rap ou... Et nous, on adorait De La Soul et on adorait le Velvet Underground en même temps, par exemple. Ça a toujours été, c'est toujours combattu pour avoir une liberté totale de goût déjà. Et en fait, ça s'est ressenti après dans nos disques.
C'était les gens qui nous donnaient foi et qui nous donnaient envie de persévérer.
Tying a noose in the back of my mind. If you thought that you were making your way to where the puzzles and pagans lay, I put it together. It's a strange invitation. Sweep up my lazy bones, and we will rise in the cool of the evening. I remember the way that you smiled when the gravity shackles were wild. But something is vacant when I think it's all beginning. We'll be right back.
drifting along in the same stale shoes. Loose ends tying a noose in the back of my mind. If you thought that you were making your way to where the puzzles and pagans lay, I put it together. It's a strange invitation.
Dans les oreilles de
Phoenix.
Jackass, morceau de Beck qui prend sa source en Irlande du Nord, puisqu'il sample ici un morceau du groupe Zem, les fameux qui ont chanté Gloria. Beck, donc, dont la musique tournait sur la platine de Phoenix, nos invités ce matin, au moment même où ils commençaient à sortir leur premier disque, c'est-à-dire dans la seconde moitié des années 90. Alors, dans un instant, Branko et Christian reviennent sur l'importance des lieux dans le processus créatif du groupe et partagent avec nous les disques qui restent pour eux des fondamentaux, de ce qu'on réécoute encore et encore, mais aussi qui vous ouvre des voies et qu'enfin on se plaît à faire découvrir.
The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you.
Dans les oreilles, dans les oreilles, dans les oreilles de
Phoenix.
I Want You, Bob Dylan sur la platine, guidé par la main du groupe Phoenix qui se raconte en musique sur Radio Nova. Vous êtes dans leurs oreilles. Bob Dylan, I Want You, extrait de Blonde on Blonde, une sélection du guitariste Christian Mazzala et un disque sous forme d'énigme. Quel est le disque que vous avez le plus écouté? Enfin, sur lequel vous revenez souvent?
plus je l'écoute, moins je le comprends. C'est le Blonde on Blonde de Bob Dylan, que j'ai énormément écouté. Finalement, je ne connais très peu. Je sais pas pourquoi, c'est une telle montagne. Chaque fois que je l'écoute, je me laisse embarquer et j'arrive plus à l'analyser. Donc, par exemple, je pourrais même pas te dire l'ordre des chansons, alors que je l'écoutais. Il y a des disques comme ça.
C'est un disque monstre. C'est un bon disque, ça. On a les mêmes goûts. Il y a plutôt quelques très rares disques qui nous séparent, c'est plus ça.
Ouais, une ou deux. Un ou deux. Mais des disques qu'on adore, je sais pas, il y en a tellement, mais...
Est-ce qu'il y a des disques qui vous ont, genre, même justement dans la composition, vous ont ouvert des voies, changé votre vision de la musique, mais dans ce sens-là, dans le sens où ça vous a créé des petits eureka de composition ou de voies dans lesquelles aller ou de terrains à explorer?
Il y a un disque assez peu connu de Iggy Pop qui s'appelle Kill City, qui est assez fondateur pour nous. Pourquoi ? Parce que déjà, soniquement, sans compromis, c'est la première fois, je sais pas, je l'ai mis dans ma chambre, je l'avais acheté en vinyle, et je crois qu'il y avait un problème, je crois que le diamant, il y avait de la poussière dessus, tellement la voix saturait, et à un moment, j'ai compris que c'était fait exprès, que c'était... Déjà, ça, c'est un parti pris radical assez fou, une voix saturée comme ça. Enfin, ça m'a ouvert des portes. It's how you show your love. You're pushing up to your love. Let's talk love. Love. Paper education. You know the bottom. Après, stylistiquement, c'est l'album qu'il a fait quand il était complètement fou. Il allait le week-end, il était à l'asile, et le week-end, il enregistrait avec James Williamson, un guitariste incroyable. Et ils ont fait un album très étrange avec des synthétiseurs et des saxophones, doublés à chaque fois, deux saxophones, un à droite, un à gauche. Stylistiquement, il y avait une sorte de truc Paris complètement fou qui nous a vachement... même les accords, tout, même les guitares et tout. C'est un album qui nous a vachement aidés.
Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous faites de la musique, justement? Quand vous travaillez sur des albums ou pas spécialement?
Entre les albums.
À la fin d'un album ou pendant la tournée, surtout. Je me rappelle très bien, on a la fin de notre album, troisième album, il y a... It's Never Been Like That. Il y a Julien Delfoy qui nous a fait écouter sur le chemin du studio dans la nuit Steve Reich. On a découvert, c'est un des disques fondateurs qui a fait changer un peu notre trajectoire.
C'était quel disque de Steve Reich?
C'était génial. C'était pas Music for Writing.
Si, c'était ça.
Donc c'était la parfaite porte d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas Music for Writing Musician.
Les oreilles de
Phoenix.
Vous faites des banques, vous avez une petite mallette à son, en fait, vous avez des banques de données où vous collectez beaucoup de musique.
Ouais, ça c'est une habitude que j'ai prise, c'est que dès que j'entends un segment musical, une rythmique séparée, un élément comme ça, que dont je sens que ça pourrait être le point de départ d'un morceau, je le sens et je le mets de côté. Ça, c'est ce que je fais entre les albums. je fais ça et je réunis aussi des sons un peu de des sons synthétiques, des sons de synthé. Et c'est la seule chose qu'on fait avant de travailler sur un nouveau disque. On compose pas séparément comme font les à peu près 100% des gens, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux, puis soudain ils écrivent un morceau comme je sais pas John Lennon. Nous on fait pas du tout ça. On a besoin d'être tous les quatre ensemble. Et le seul travail préliminaire, c'était ça, ce travail de créer une sorte de palette de couleurs et de petites boucles. Et ça, c'est une habitude qu'on a gardée depuis l'époque où on a commencé avec les premiers samplers.
L'importance des lieux, justement, puisque vous êtes ensemble, le lieu, c'est un espace important. Donc, de la cave à Versailles à la Gaîté Lyrique, même je pense aux studios de radio dans lesquels vous étiez en Allemagne, qui sont des studios maintenant, et là, le musée des arts décoratifs.
Exactement. Le lieu est fondamental. Chaque lieu, c'est un chapitre, c'est un album. Chaque lieu est un album, et chaque album est un chapitre de notre vie. Une vie de musicien, ça peut être très, très répétitif, finalement. Si on ne fait pas attention. Nous, on fait attention à ce que chaque chapitre ait sa couleur, soit relié à des souvenirs. Quand on est en tournée, on fait attention de ne pas répéter la même journée à l'infini, parce que c'est un risque pour tous les groupes de revivre le même jour.
Un jour sans fin.
Un jour sans fin. Et ça demande pas mal d'énergie de faire ça, de sortir des rails de la répétition. Et donc, chaque album est unique. Et on sait que le trajet, par exemple, de chez nous au studio, ce trajet-là est hyper important. Sur cette route, les quelques décisions qu'on va prendre, c'est là qu'elles vont être prises. On avait vu que Fellini il travaillait à Cinecittà et il demandait toujours à son chauffeur de faire un détour parce que c'est sur le chemin que tout se passe. Donc on sélectionne les studios très 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 méticuleusement.
Nova
dans les oreilles de
Phoenix.
Et est-ce que donc il y a cette méthode Fellini.
Ouais, méthode Fellini.
Est-ce que, donc ça c'est un référent cinéma, est-ce que justement vous avez été marqué par des albums ou en tout cas vous avez noté justement des histoires d'albums qui sont associés à des lieux justement?
Bien sûr, il y a l'album des Stones enregistré dans le sud de la France. C'est quoi, c'est Exile on Main Street? L'album de Joe Gilberto enregistré à New York avec Wendy Carlos qui s'appelle Joe Gilberto. Ça, c'est un album qu'on adore. Et c'est des albums de lieux, ça. On sait que le lieu, le studio, ce moment précis... ici et maintenant. Les albums fondateurs, souvent, ils sont liés comme ça à un lieu. Même Bob Dylan, quand il est allé à Nashville faire Blonde on Blonde, dont parlait Chris avant. Non, on sait que c'est important. Faut mettre sur les morceaux qui sont passés un peu
à travers. On a Radio Nova là, donc tu peux te permettre de mettre un morceau.
On peut mettre un morceau du premier disque que personne n'écoute jamais presque. Embuscade.
Pourquoi vous choisissez celui-là?
Je l'aime bien et je trouve que c'est un des morceaux qu'on a le plus, un de nos morceaux réussis, dont personne ne nous parle jamais. C'est un peu un... pour lui mettre un petit coup de projecteur.
Sur United, premier album du groupe Phoenix, ce niche, ce très bel instrumental Embuscade. C'est ce titre qu'ils ont choisi de réécouter avec nous, histoire d'offrir un coup de projecteur à ce morceau qu'ils aiment particulièrement et dont ils aimeraient bien qu'on leur parle de temps en temps. Entre United et Alpha Zulu, 22 ans ont passé. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, aujourd'hui ?
Non, on change quand même. Mais il y a des morceaux qui accompagnent, qui accompagnent bien... Les voyages intercontinentaux, par exemple l'album Koyaanisqatsi de Philip Glass. Celui-là, je l'écoute dans les moments importants. Ça marche toujours. D'accord, non ?
Tout le monde est toujours d'accord.
Koyaanisqatsi, on a carrément réservé une salle de ciné pour projeter le film. On était juste nous. Et on a vu, on l'a vu juste nous avec le son à fond, Koyaanisqatsi.
À New York, ouais. La péloche, la vraie péloche d'origine. Ouais,
c'était top.
C'est un des meilleurs moments de notre vie, ça.
Koyaanisqatsi.
Ah, qu'est-ce qu'on écoute? Je regarde, moi, il faut que je regarde sur mon truc. Parce que...
On revient d'une tournée aux États-Unis où notre première partie est un groupe qu'on adore, c'est Porches. C'est un groupe de New York. Super, super. Ça vaut le coup.
La tendance, c'est plutôt d'aller vraiment au fond de la discographie d'un artiste. Et il y a eu des périodes vraiment de folie presque sur les albums des Beach Boys et toutes les raretés des millions d'heures d'écoute. Alain Toussaint, j'ai eu une période où j'écoutais que Alain Toussaint. Surtout quand il bossait avec les Meters et tout ça, disons fin 60s. Il y avait une combinaison du charme, il y avait un charme de la matière sonore, il y avait un charme aussi de la composition, une sorte d'innocence. Et puis d'un point de vue dispositif de groove, c'était incroyable. C'était fait partie des morceaux les plus irrésistibles. Pendant un moment, j'écoutais que ça. Et donc j'étais fou, j'écoutais que ça, j'essayais de trouver... J'adore trouver sur YouTube les gens qui mettent... ils ont le vieux 45 tours, ils le mettent. Et donc t'écoutes le 45 tours qui passe à travers YouTube jusqu'à tes oreilles. Et il y a des versions comme ça qui sont mieux à travers tous ces filtres. Il y a de la magie qui s'ajoute. Donc ça compliquait encore les choses.
Dans les oreilles de...
Phoenix.
Moi, le morceau que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, c'est Going Home de Alice Coltrane.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Alice Coltrane ?
En fait, c'est peut-être lié à notre ami Philip Starr, qui est décédé il y a plusieurs années maintenant. Et il nous en parlait tout le temps. Et en fait, à l'époque, je ne l'écoutais pas. Et bah, je n'y pensais pas. À chaque fois, il nous parlait d'Alice Coltrane et tout. Et à ses funérailles, ils ont mis un morceau d'Alice Coltrane. Pas celui-là, un autre. Et là j'ai tout compris. Enfin, j'ai... Et bref, ça me fait penser. J'ai deux. Après, quand il est mort, j'ai beaucoup écouté ça en marchant dans la rue dans Paris. Et depuis, j'ai découvert d'autres morceaux, dont celui-ci, Going Home. Je sais pas, il y a quelque chose de. C'est presque inexplicable, c'est hyper mystique.
Ah, il y a plein de choses. Les derniers chocs, il y avait les trucs de PC Music en Angleterre qui faisaient... Enfin, j'ai moins suivi, là. Mais pendant un moment, j'étais à fond, j'écoutais vraiment tout. Et il y avait vraiment des trucs incroyables. Des morceaux avec 90 accords. Il y avait une folie... Bon, on l'a rencontré il n'y a pas longtemps, quand on a joué à Los Angeles. Il était là-bas, A.G. Cook, là, Alex. Une des têtes pensantes. Play.
Sinon,
Sinon, il y a pas mal de trucs en Afrique en ce moment qui nous plaisent bien. Là. Toute la, en Afrique du Sud,
voilà, ma piano,
etc. Et puis là, on a demandé à on a un copain qui jouait d'ailleurs dans, le, dans Darling. On était tous les trois avec Thomas et Guy-Emmanuel. Il y avait aussi Jess qui était à la batterie. Et Jess, il a fait lancé un label qui s'appelle Passenger. Et c'est devenu un des plus grands connaisseurs du monde, je pense, de la scène africaine, toutes les scènes africaines. Donc là, il nous a envoyé une playlist par pays des trucs qui se faisaient en ce moment. Et donc là, on est à fond là-dedans. Là.
يسي نفطان قضي قود مع الياي وبتعلان مريني هذا ندمي الكلتو يسي نفطان قضي قود مع الياي وبتعلان مريني هذا ندمي الكلتو.
Et alors, le plus gros choc, ça vient d'où ? De l'Est, de l'Ouest, du Sud ?
Nous, on a toujours été hyper sensibles à l'Est. Mais c'est un peu compliqué parce qu'ils ont un accès difficile à Internet à cause des situations politiques un peu complexes. Donc, c'est des trucs où c'est plus dur de trouver des nouveautés. Mais nous, on est très sensibles à toutes les gammes de la Corne de l'Afrique, Somalie, Éthiopie, tout ça, ça nous parle beaucoup.
Dans les oreilles.
Nova ?
Dans les oreilles de
Phoenix. On va dire la vérité.
Hein. On va dire la vérité. Moi, j'ai écouté un truc qui s'appelle... Mais je sais même pas ce que c'est. Par contre, j'ai trouvé ça bien. J'ai mis un petit cœur. Caitlin Aurelia Smith. Unbraid. Spotify single, il y a marqué. Je sais pas ce que c'est. Voilà.
Ouais, mais je vais pas mettre ça parce que Michel Piccoli qui dit montagne. Non, sinon il y a... Ah, ça, c'est génial. Ah ouais. Joseph Spence, Coming In on a Wing and a Prayer. Une sorte d'Elizabeth Cotton des Bahamas. Génial. C'est Rob, en fait, c'est Rob, notre clavier, sur scène. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. Il fait du sport avec... Et il met de la musique à chaque fois. Il m'a fait découvrir en son salon.
Dernière question, c'est quoi la musique pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ?
Pour moi, la musique, ça représente, c'est l'origine pour moi. C'est dans notre enfance, j'ai 4 ans, on est en Italie, dans la famille italienne. C'est un repas, ça parle fort, et tout à coup, il y a notre oncle, un cousin, même un cousin de mon père, qui prend la guitare. Ça arrivait à chaque fois, à chaque repas. Et le repas passait d'un moment normal, naturel. Il y avait une nouvelle dimension qui s'ouvrait où tout était possible. C'est une sorte de folie un peu inexplicable. Cérémonie presque voodoo un peu. Et c'est ça la musique pour moi. Si je devais résumer ce moment de transcendance où tout prend sens finalement.
Je valide. J'étais là.
C'est sur ce souvenir de transcendance que s'achève notre heure passée dans les oreilles de Phoenix. Au micro, Christian Mazzalai et Laurent Brankovic, moitié du groupe Phoenix qu'il forme avec Dag Darcy et Thomas Mars. Phoenix, dont le 7e album Alpha Zulu est disponible depuis le début du mois et que vous retrouverez sur la scène de l'Olympia à Paris lundi et mardi prochain en clôture de leur tournée. Merci à Mathieu Boudon qui a réalisé cette émission, une émission qui, je l'espère, vous aura donné envie d'agrandir plus grand encore votre discothèque. Je vous rappelle qu'elle est dès à présent disponible en podcast et en version augmentée. Et moi, je vous retrouve, vous le savez, dans quelques minutes, côté grand mix de Radio Nova.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova. Retrouvez Dans les oreilles 2 et sa playlist sur nova.fr.